Donc on est parchat Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esrei shana. Yaakov, il a vécu dans le pays d'Égypte 17 ans. Donc il était avec Yosef 17 ans. Et Yosef était vendu à quel âge? À 17 ans. Donc les premiers 17 ans de Yosef, il a vécu avec son père. Et maintenant, les derniers 17 ans de son père, de nouveau, Yosef vit avec son père. Donc, 17 et 17, ça va être 34 ans. Donc, pendant 34 ans, il était à côté de son père. Vayim Yaakov Shenei Chayav. Et ce fut les jours de Yaakov, les années de sa vie. Les jours de Yaakov, les années de sa vie. Un peu compliqué comme expression. Yemei Yaakov. C'est-à-dire l'époque de Yaakov, la vie entière de Yaakov, Shenei Chayav, les années de sa vie. Les années de sa vie, Yemei Yaakov, comme si c'est Yemei Yaakov, Shenei Chayav, Sheva Shanim, 7 ans. Varbeim Omaat Shana et 40 et 100. 7 et 40 et 100. On aurait pu dire 147. On dit 7 années et 40 et 100 années. Comme si les premiers 7 ans sont quelque chose de spécial, ou c'est les derniers 7 ans. 7 ans plus 140 ans. Qu'est-ce qu'il y avait dans les premiers 7 ans de Yaakov, quelque chose de spécial? Ou les derniers 7 ans de Yaakov? Il y a 7 et il y a 140. Il y a 7, il y a 40, il y a 100. Vayi krevou yemei Israël amut, et les jours d'Israël, ils se sont rapprochés vers la mort. Qui sait, les jours se rapprochent vers la mort ou le mort se rapproche vers les jours? Ça veut dire quoi? Les jours sera, lui se rapprocher vers la mort. On ne dit pas que lui se rapproche vers la mort. Les jours de Yaakov se rapprochent vers la mort. C'est-à-dire que Yaakov, il a ses jours, et c'est une roue qui tourne, et ça se rapproche vers la mort. Comme on dirait comme une montre. Yaakov, il a accroché à un montre. Et là, tac, 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 tac. Et ici, c'est marqué mort. La mort, il est décidé ici. Il se rapproche vers... Pas la mort se rapproche vers lui. La mort ne vient pas vers lui. La mort est fixe. Ça s'est décidé. Le ciel a décidé. Ici, c'est la mort. Maintenant, l'homme, il se rapproche jusqu'il arrive à la mort. Les jours, il se rapproche vers la mort. Comment? Il savait ou il savait pas? Il a senti. C'est-à-dire quoi? Il a senti la faiblesse. Il a senti. Les gens, ils sentent. Quand ils sont vieux, ils sentent que maintenant, ça va... C'est pas dans trop longtemps. Va yikra livno le Yosef. Il a appelé livno à son fils Yosef. Il y a un trait entre le va yikra et le mot livno. Pourquoi il y a un trait? Le trait, c'est-à-dire, c'est un arrêt. C'est-à-dire le chanteur de quand on lit la Torah, la façon comme on lit la Torah, c'est très très important. Ça a un sens. Le terme va y croire, l'ivno de Yosef. Pourquoi il y a une coupure? Comme pour dire, le va y croire, c'est pas seulement à son fils Yosef. Il y a un va y croire. Il appelle son fils Yosef. Mais en dehors de son fils Yosef, il y a un autre appel ici. Un appel à qui? Il y a une déviation. Il y a un cri de Yaakov et il y a un cri de Yaakov vers Yosef. Mais le cri, il est indépendant de son fils Yosef. C'est-à-dire quoi? Il crie. C'est-à-dire, il... Un cri, c'est... Il cherche à laisser un cri vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de toute la famille. Probablement de toute la famille. C'est-à-dire il a poussé un cri pour toute la famille. Et plus spécifiquement Yosef. Mais tout le monde devait entendre ça. Savoir que Yaakov, il arrive dans la dernière phase de sa vie. Que tous les enfants, tous les petits-enfants, ils se rendent compte. Vayomer lo, et il lui dit. Donc il appelle son fils Yosef. Vayomer lo, il lui dit. Imna, matzati chen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Qu'est-ce que c'est comme expression? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais pourquoi tu crois que tu n'as pas trouvé grâce à mes yeux? Qu'est-ce que le Père a besoin de supplier son Fils si j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ça veut dire, si tu me considères comme un personnage charmant, si tu as le sentiment que tu me dois quelque chose, si tu seras bien disposé de me rendre service, mais tout, qu'est-ce que c'est toutes ces manières-là? Le Père, il dit, oh, fils, tu me fais ça, voilà, je t'ordonne, je suis ton papa et tu me fais ça, voilà.
C'est par rapport à Rachel.
Ça, c'est une prochaine histoire, ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième histoire de Rachel. Il y a deux histoires ici. Première rencontre, c'est pas Rachel. Deuxième rencontre, il y a Rachel. Première rencontre, il lui demande un service. Quel service? Il demande le service de le transporter en Eretz Israël. Bon, c'est un service difficile pour Yosef. C'est un service difficile. C'est-à-dire, un père ne doit pas ordonner à ses enfants. C'est une grande erreur que les gens y croient. Beaucoup de gens, ils abusent de leur position de dominante. Ils ne savent pas que même quand on a une position dominante, ça n'excuse pas du tout l'obligation de tu demandes que l'autre, il te sert. De l'autre, il fait un effort pour toi. C'est les gens orgueilleux qui considèrent c'est tout à fait normal que mon fils il fait ce que je veux. Tu es mon fils et moi je suis le papa, tu n'as qu'à le faire. Cette façon, ce n'est pas une façon bien élevée. Ce n'est pas comme ça. Tu dis à ton fils, si je trouve grâce à tes yeux, est-ce que j'ai le droit de te demander ce service? Ça ne va pas de soi. Quand ça va de soi, c'est un espèce d'orgueil. Une espèce de profiter de par ta position. C'est vrai que tu es le père. Un père doit respecter son fils aussi. C'est pas qu'on s'imagine on peut faire ce qu'on veut. C'est une grande erreur. Il y a beaucoup de tragédies à cause de ça. Il y a tellement beaucoup d'enfants qui se rebellent. Et quand ils peuvent pas se rebeller parce qu'ils ont peur du père. Alors, les enfants qui auraient voulu se rebeller, mais ils ont peur parce que le père, il met un tel poids, il écrase, tu es là pour à mon service, c'est faux. Chaque personne est là, sa personne, et chacun a son occupation, et le fils, il a ses occupations. Le fils, il doit faire Kibbud Av V'Em, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que la Torah demande au fils de faire Kibbud Av V'Em que le père, il a le droit d'être un dictateur. Faut jamais être un dictateur, même si d'après les règles du jeu, l'autre il doit t'écouter. Harcèlement dans une entreprise, on peut rendre fous les ouvriers. Alors, imna matzat ichen benecha, comme ça on parle autour des gens bien élevés. Si je trouvais grâce à tes yeux, simna po, s'il te plaît, yadecha ta main, tachat yerechi, sous ma hanche. Sur la Brit Mila, normalement on ne touche pas la Brit Mila, mais quand on a 147 ans, on est dit comme ça, ça un peu. Vasita, il m'a dit Chesed ve'emet. Tu feras avec moi Chesed, une bonté, une gentillesse, un cadeau, une faveur. Ve'emet est une vérité. Tu fais avec moi une vérité. Ça veut dire quoi? Alors, quand tu fais avec moi une vérité, ça veut dire quoi? Une vérité. Une véritable charité. Une véritable charité. Un geste qui est composé par un geste de charité. Pourquoi charité? Parce que moi, je serai mort. Et je serai obligé de me faire servir par mon fils. Moi, je ne peux pas aller mort en Eretz. Quand on est mort, on ne peut plus rien faire. on est dépendant de la gentillesse des gens qui veulent bien me porter mon corps pour m'enterrer. Je demande, je suis un pauvre type. Un homme, il doit savoir le plus fort du monde, et le plus grand, et le plus intelligent, et le plus riche. Une fois qu'on est mort, on a tout perdu. Tout pouvoir a perdu. On peut être un Staline, et une fois qu'on est mort, on n'est plus de Staline, il n'y a rien, rien, on vaut plus rien. L'homme le plus puissant, le plus grand orgueilleux du monde, une fois qu'ils sont morts, ils sont plus rien. Et on marche sur eux comme on marche sur tout le monde. Les gens sont orgueilleux, ils ne savent pas. Ils vont mourir, ils ne sont plus rien. Alors donc, je demande une gentillesse. Véhémet, quelque chose de vrai. C'est de quoi quelque chose de vrai? Véritable gentillesse. Rachid dit parce qu'il y a des demi-vérités. Quoi, les demi-vérités? Oui, c'est notamment. Mais Rachid dit autrement. Qu'il y a des gentillesses qui ne sont pas des vraies gentillesses, mais qui sont plutôt de l'égoïsme. C'est que je suis gentil avec quelqu'un parce que j'espère que l'autre me rendra l'ascenseur. Il va me renvoyer l'ascenseur. Je veux bien inviter ce monsieur. Et je le serre et tout. Parce que je dis, lui aussi va me faire quelque chose. J'attends quelque chose en retour. Et ça, peut-être la majorité des gentillesses sont faites dans ce sens. Je l'honore, je l'aide, je vais passer du temps avec lui. Mais j'espère que je profiterai un jour. Mais quand on enterre un mort, alors lui, il ne va pas me rendre. Donc, une véritable charité, fais-moi. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Alna tikbereini mitzraim, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Il avait horreur d'être enterré en Égypte. Je ne veux surtout pas d'être enterré en Égypte. Pourquoi il avait tellement peur d'être enterré en Égypte? Pourquoi il ne voulait pas être enterré dans cette terre impure? La terre d'Eretz Israël et les Kadosh étaient enterrés dans Marat Amarpela. Ça va fermer le cycle Adam Arishon, Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Voilà, c'est les quatre tzadikim, le Sod, Avot et Kedushim avec Adam Arishon, Marat Amarpela, comme ça chaque juif, il va prier sur la tombe des Avot et Kedushim. Ça, c'est quelque chose de très important. Les Avot, ils sont ensemble enterrés. Ça, c'est la base de l'histoire du peuple juif. Les Avot enterrés et ont prié devant leur tombe. Et il semble que ça a un grand pouvoir de prier sur leur tombe. On dit Caleb ben Yefouné. Caleb ben Yefouné, ça a été. Quand les Maraglimis sont partis, il y a voix de Hevron. Caleb ben Yefouné, il est parti jusqu'à Hevron pour prier dans Marat HaMachpela. C'est important. Donc, je te supplie, je ne veux pas te enterrer ici en Égypte. Veshachafti me'avotai, je vais me coucher avec mes parents. Ça veut dire quoi? Je vais rejoindre, je vais me coucher. Je vais me coucher ici, im avotai. Je serai avec mes parents. Ça veut dire avec Aaron Yitzhak. Aaron Yitzhak, Yaakov, les trois ensemble, ça c'est les avot. Et moi, je vais être avec mes parents. Donc, je veux que mon corps sera aussi à côté d'eux. Un satani, mimitraim, tu vas me porter d'Égypte, ou kvartani, tu vas m'enterrer bikvuratam dans leur tombe. C'est-à-dire après la mort, c'est important où un homme il est enterré. Pourquoi? C'est tout pour renforcer le phénomène qu'après la mort, c'est pas fini. Ça, c'est les apikorsim, les gens qui croient ni en Dieu, ni au monde futur. Une fois qu'on est mort, c'est comme un chien. Un chien, il est mort. Une vache, elle est morte. Une fourmi, elle est morte. C'est fini. Ça n'existe plus. La meilleure des choses qu'une vache morte, elle peut faire, elle peut pourrir. Et après, ça donne un peu de... Comment on appelle ça pour la terre? Ça donne du... Ça donne de l'engrais, voilà. Comme un arbre qui meurt. Alors ici, c'est pas comme ça. Nous savons que l'être humain, c'est la neshama va avoir l'olam haba. Et le corps du tzaddik, eh bien, le corps aussi, il a une kedusha. Malgré qu'il dégage une touma, le corps, c'était l'habit de la neshama de l'homme. neshama ou Gan Eden et le corps, c'est un objet de kedusha, un objet de mitzvah. C'est quelque chose de kadosh, c'est pas comme un animal. Un animal, qu'est-ce qu'un animal a fait dans sa vie? A mangé, a dormi, et il a eu des enfants. Et après, il meurt et la chair en mange, ou ça devient de. Ou ça devient de. Comment vous avez dit? Engrais. C'est une machine. Mais l'homme, c'est une autre chose. L'homme, il a servi Hachem. Et le corps, il a une kedusha, il a dominé son yetzerara, il a utilisé son corps et sa mitzvot. Et ce corps, c'est quelque chose de sacré. Et ce sacré, on pose dans un endroit et on prie devant cet endroit. Et le neshama, il est encore attaché. Et quand on prie devant le Maharat HaMakhpela, la tefila monte au ciel. C'est, le corps, il est devenu un objet pour recevoir des, une liaison avec le neshama, avec le ciel. L'endroit, un cimetière, c'est quelque chose de kadosh. Et qu'il faut respecter. Beaucoup de halachot, là, c'est comme un bet knesset. Bet akvorot, il y a plus fort raison, c'est un bet akvorot de tzadikim. Il y a plus fortes raisons, les avot, les Maharat HaMakhpela. Donc ça, c'est très important. Je te supplie, fais-moi ça. Vayomar, Yosef, il a répondu, Anochi, Esek, Idvarechama, je ferai comme tes paroles. C'est-à-dire quoi, je ferai comme tes paroles? Pourquoi il dit comme tes paroles? Je fais, je ferai. Pourquoi il dit Kidvarecha, comme tes paroles? Je veux dire, je ne m'engage pas de faire plus que ça. Le Maas, il a fait beaucoup plus. Il est parti avec tous les militaires et tous les vieux. Et avec, c'était un immense, le convoi après à la fin de la parsha, un immense convoi. Il y avait un enterrement de folie. Ça n'a jamais existé comme Yaakov et son enterrement, avec beaucoup de kavod. Mais il ne s'est pas engagé de faire ça. Parce qu'il ne faut jamais s'engager quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'on peut le tenir. Ce que tu m'as demandé, je m'engage. Tu m'as demandé quoi? Je prends ton corps et je l'enterre là-bas, je le ferai. Comme tu as dit, je ferai. Maintenant, faire plus que ça, de faire amener tous les gens d'Égypte et pleurer 70 jours et truc. Bon, je ne veux pas m'engager, parce que je ne sais pas si Paro il me laisse, s'il ne me laisse pas, je ne sais pas. Donc je ne veux pas dire je ferai tout ton honneur. Ne dis pas, ne promets pas, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, ne promets pas. Il y a des gens qui aiment de promettre. Oui, je te ferai ça et truc et tu verras. Il y a des gens qui aiment comme ça, on sait. Faut pas promettre, tu sais pas. Mais ce que tu m'as demandé, je ferai. Anochi eser chidvarecha. Voyomer, il a dit, Hishavali, jure-moi. Il n'avait pas confiance, Yaakov. Mais il a promis avec la bouche. Non, il faut que tu jures. Il faut que tu me rassures. Pourquoi? Il croit que Yosef va mentir. Ah, j'ai dit parce qu'il avait peur que Paro va l'empêcher. Même si Yosef, il promet. Mais Paro, il est au-dessus de lui. Et c'est Paro, il dit, je ne permets pas que ton père quitte l'Égypte. Moi, je veux que le rabbin, il sera ici. Et pourquoi Paro ne laisserait pas? Parce que Yaakov, il a porté une bracha. Parce que quand Yaakov est arrivé en Égypte, l'eau est montée. Ils ont vu. La bracha est venue, il est 5 années de famine s'arrêter. Ils ont vu que Yaakov il arrive et l'eau il vient. Le Nil se levait. Ils ont vu, c'est un homme du miracle. Donc Paro, il est très intéressé. Peut-être que ce corps, il reste parce que les Égyptiens aussi, en tout cas les rois, ils croyaient aussi que les grands personnages, leur corps est très important. Ils faisaient des châteaux de... Totakamon, comment ça s'appelle? Pour les pharaons, ils avaient créé toute l'or et l'argent et tout. Maintenant, ils ont tout pillé déjà. Mais les tombes des rois, des pharaons, étaient bourrées d'or. Et au 18e et au 19e, au 20e siècle, il y avait beaucoup de pillages. Même avant, des siècles avant déjà, les tombes étaient pillées par des pilleurs de sang, une petite pilleur de l'or. Il y avait des bijoux, des trucs, des richesses à l'infini là-bas, comme ça ils racontent. Maintenant, il n'y a plus rien. En tout prix. Mais quoi, les rois, ils avaient instauré une espèce de philosophie de vie que les rois, ils vont, quand si on les enterre avec beaucoup d'honneur, ce sont des dieux, ça apporte la bracha au peuple. Donc, c'est très possible que Paro, il va va vouloir à tout prix que Yaakov y reste. Donc même si tu me promets, mais mes paroles sont plus fortes. Alors il dit, tu es obligé de me le jurer. Quand il jure, ça veut dire que tu es obligé vraiment d'aller jusqu'au bout, peut-être pas transmettre, de pas transgresser le serment. Donc tu vas aller jusqu'au bout pour défendre la cause. Et aussi, parce qu'il y a une histoire avec Paro, avec un serment de Paro. Parce que Paro était un homme très cultivé. Il connaissait combien de langues? 70 langues. Et Yosef, il connaissait 71. Quelle langue? La chambre à cause des gens plus. Et Paro, il a dit, jure-moi que tu racontes à personne. Il a juré. Si maintenant, il a juré à Yaakov, si Paro, il va dire, même si tu agis à ton père, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de tenir ton serment. Alors, c'est dire, d'accord, je ne suis pas obligé de tenir un serment, alors je ne tiens pas le serment de dire que j'ai plus de culture que toi. Et comment Paro, il connaissait 70 langues, il ne pouvait pas apprendre 71. Si on connaît 70, on peut apprendre 71 aussi. Puis la Shana Kodesh, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à la Shana Kodesh. Il avait un blocage dans la tête vis-à-vis de cette langue. Un langage prophétique. Les prophètes parlaient toujours la Shana Kodesh, c'est une grande règle. Les prophètes ne parlent pas en français. Voltaire n'était pas prophète. Les prophètes, Hachem, il parle avec les prophètes en la Shana Kodesh. Quand il y a la Tum'a d'Égypte est tellement profonde. Il n'arrivait pas à apprendre l'hébreu. Mais il connaissait 70 langues. Les types étaient cultivés. Paro, c'est un homme très chacham. La Torah ne s'occupe pas, la Torah ne parle pas des. Elle ne rapporte pas les paroles des simples. Même le Paro de Moshe, il ne faut pas croire que c'est un abruti. C'est un grand philosophe, avec une grande philosophie. Pourquoi il veut faire souffrir les juifs? Une grande philosophie, grand chacham. Lavan aussi est très intelligent, et ça aussi très intelligent. La Torah nous parle que des personnes qui sont dans le top du top de l'intelligence. On ne parle pas des stables, des abrutis, la Torah ne parle pas de la Torah, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un livre de Picsou. Chaque personne dans le Chumash qui dit un mot, il y a dedans toute une philosophie en accord avec la Torah ou en contradiction avec la Torah. Mais la contradiction, elle est aussi intelligente. Alors, Boyomer, il a dit, Hishaval, il jure, moi, Vaishavalo, il a juré. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Et Israël, il se prosternait al Rosh Hamita, sur la tête du lit. C'est quoi la tête du lit? Il y a plusieurs explications. Le lit de Yaakov, la tête du lit. Alors, soit Hakadosh Baruch Hu se trouve sur le lit de Yaakov. Donc, il se prosternait devant Hachem. Soit la tête du lit. Le lit, c'est-à-dire les enfants. Les enfants fabriquent dans le lit. Donc, quand on dit le lit de quelqu'un, ça veut dire ce qu'il a produit dans le lit, c'est-à-dire ses enfants. Et la tête des enfants, qui est la tête des enfants? Yosef, c'est la tête. Donc, il se prosterne à Yosef. Donc, Yaakov se prosterne devant son fils Yosef. Donc, ici, tu as le soleil qui, en fin de compte, il se prosterne quand même. Parce que Yosef, il a bien juré que quoi? Il a bien rêvé que le soleil se prosterne. Mais quand Yaakov est venu en Égypte, il ne s'est pas prosterné devant Yosef. Et pourtant, Yosef, il a rêvé ça. Et bien, c'est maintenant, avant de mourir, il s'est voulu prosterner. Et pourquoi pile maintenant, il se prosterne? Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas prosterné. Il a rencontré Yosef.
C'est un signal.
Hein?
C'est un signal.
Un signal.
Ouais.
Ça veut dire?
C'est-à-dire qu'il envoie un signal pour confirmer que le rêve de Yosef, c'est une prophétie. C'est comme pour donner la valeur à Yosef.
Et pourquoi maintenant? Pourquoi il n'a pas fait ça quand il a rencontré Yosef?
Parce qu'il n'a pas vu l'étendue de son pouvoir jusqu'à maintenant. Il n'a pas vu toutes les choses se réaliser. Il n'a pas vu Menaché Ephraim. Il n'a pas vu tout ça.
Menaché Ephraim, on n'a pas encore parlé de Menaché Ephraim. C'est au moment qu'il a promis que je te enterre. Quand Yosef, il dit, je te jure, je t'enterre. Maintenant, Yaakov dit, ça va. Maintenant, je me prosterne devant toi. Ça y est, maintenant, j'accepte ta royauté. C'est-à-dire, se prosterner, c'est-à-dire, je t'accepte comme roi. Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas accepté. Tu es le roi d'Égypte. Tu es le roi de tes frères. Tes frères, ils se sont prosternés, même deux fois. Très bien, moi, je ne me suis pas encore prosterné devant toi. Le père ne se prosterne pas devant le fils. Maintenant, oui. Pourquoi maintenant, oui? C'est-à-dire que maintenant qu'il pense à la mort, Et il se voit déjà le corps qui est mort et qu'il faut être enterré. Et Yosef, il va organiser l'enterrement. Et moi, maintenant, moi, je suis déjà plus petit que lui. Je suis plus petit maintenant. Je me prépare à la mort et j'aurai plus aucune force. Et lui, il aura toute sa force. Maintenant, je dois respecter. Il est au-dessus de moi maintenant. D'un moment, il est arrivé qu'il est au-dessus de moi. Parce que moi, je suis en train de perdre mes forces. Comme si j'ai perdu, j'arrive à la fin de mon parcours. Maintenant, je dois reconnaître que toi, tu es le roi. Où il voulait dire, si tu vas accomplir ça, si toi, tu m'amènes à Marat HaMakhpela, que je peux rejoindre Avraham et Yitzhak, alors quoi? Alors je saurai pourquoi tu seras le roi. Alors tu seras vraiment le roi sur moi aussi. Alors c'est parce que tu es le roi, tu réussis. C'est-à-dire, avec ta royauté, tu fais quelque chose vis-à-vis de moi aussi. Parce qu'un simple ne peut pas me prendre pour m'amener. Il n'y a que le roi qui a le pouvoir. Donc, j'utiliserai ta royauté pour moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé ta royauté. J'utilise le fait que tu es le roi. Je t'utilise que tu me fais un chesed. Tu me fais une comment on dit, protectia, comme on dit en Eretz, piston. Voilà, je suis en famille avec le roi, parce que tu es le roi, donc fais-moi piston et tu m'amènes, et je te reconnais que tu es le roi maintenant. Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Vaïe, et ce fut. Acherei hadvarim haile, après. Après cette histoire, pas tout de suite, je ne sais pas, quelques mois après, peut-être quelques semaines, quelques mois après. Voyomar le Yosef, il a dit à Yosef, il, on ne sait pas qui, quelqu'un. Il, monsieur anonyme, a dit à Yosef, Hine avicha chole, voici ton père, il est malade. Donc, dans la première histoire, il n'était pas malade. Il était fatigué, il était vieux, mais il n'était pas malade. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, ton père, il est malade. Ça, c'était déjà autre chose. Ton père, il est malade. Qui est-ce qui a raconté? On ne nous dit pas qui. Quelqu'un. Pourquoi on ne veut pas nous dire qui? Parce que ce n'est pas important. C'est pas important. Rashi dit un pshat, c'est Ephraim. Ephraim, il étudiait chez Yaakov Avinu. Menaché, il faisait un stage de royauté chez son père. Menaché était ce qui servait son père, Yosef. Il aidait à Yosef de gérer le pays. Ephraim, lui, était chez le grand-père. Il étudiait. C'était Ephraim. Alors, il a pris ses deux enfants avec lui. Et Menaché et Ephraim. Il a raconté à Yaakov. Il, qui c'est il? De nouveau, on ne sait pas. Tous des anonymes. Il a raconté. Pourquoi on ne veut pas savoir qui? Il a raconté. Vayomer, et il a dit. Hinei bincha Yosef ba'elecha. Voici ton fils Yosef vient chez toi. Voici, c'est-à-dire quoi, voici? Quand on te dit voici, c'est-à-dire beaucoup de sentiments. C'est-à-dire vivante. Hinei, ce qu'il racontait, il racontait dans une telle excitation, émerveillement. Il a tellement. Hinei, voici. Voici, il a montré la scène pour que Yaakov peut le voir. Voici. Bincha Yosef ba'elecha. C'est-à-dire, mets-toi en condition, toi, Yaakov. Ton fils Yosef vient chez toi. Il arrive maintenant quoi? Un rencontre d'une importance capitale. Il va se jouer maintenant. Des immenses choses, ils vont se jouer. Hinei, regarde bien ce qui va arriver ici. Va'itrazek Israël. Israël, il se renforçait. Il a pris toutes ses forces. Il était malade. Donc, il avait déjà tension basse. Alors, il a pris toute sa force ensemble, parce qu'il faut jouer maintenant une grande chose. Il va se jouer l'histoire de Menaché Ephraim, ils vont recevoir une bracha. La bracha de Menaché Ephraim, et que Yaakov, il a rehaussé le statut de Menaché Ephraim comme ses enfants. Il les a rendus comme ses enfants, pas ses petits-enfants. C'est-à-dire, ils comptent maintenant comme des tribus. Il y a 12 tribus, Menaché c'est une tribu, Ephraim c'est une tribu. Un tribu, ce n'est pas comme un enfant après. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. La personne a été Menaché Ephraim, c'est-à-dire les Shvatim, c'était des Neshamot clés, des Neshamot de puissance qui ont pu faire hériter leur puissance à toute la génération après. Ça, c'est la Avot et les Shvatim. Les enfants des Shvatim, c'est déjà autre chose. Donc la personne était Menaché Ephraim, il est maintenant rehaussé qu'eux, ils ont un pouvoir d'influencer toute leur descendance. Et ça, il est en train de faire, et mettre Ephraim avant Menaché, ça c'est aussi très important, fixer.
Il est d'avoir aussi un héritage physique.
Héritage physique, on est Eretz Israël, et ils ont un Sanhédrin à eux, ils ont un territoire à eux, ils ont un Nessi'im à eux, un Nassi, tout, ils ont, c'est un tribu. Avec beaucoup de halachot et beaucoup de kohot, oui. Une bracha spéciale. Bracha spéciale pour Ephraim, bracha spéciale pour Menaché. Pas une bracha globale, mais personnalisée. Alors, Vayomer Yaakov et Yosef. Vayeshev al-Mita. Donc, il se renforçait, Vayeshev al-Mita, il s'assit sur le lit. Ça veut dire, avant, il était couché, maintenant, il s'assit. Qu'est-ce que ça change si un homme, il est couché sur le lit ou il est assis sur le lit? Assis, il s'assit avec ses dernières forces, il s'assit sur le lit. C'est pas la même chose de coucher ou assis. Coucher, ça veut dire, coucher, c'est un peu un paresseux, il reste couché. Assis, ça veut dire, je te respecte. Alors, Vayom Yaakov et Yosef. Quel Shakai, le Dieu, Nira Elai Belouz, il m'a apparu à Luz, dans la ville Luz. Be'eretz Kenan, dans le pays de Kenan, Vayivar Echoti, il m'a béni. Maintenant, Yaakov, il fait l'histoire de Rachel. Et l'amour de Rachel, quand Yosef était un petit gamin. Vayomer Elai, Dieu m'a dit, Hinini ma frecha, vas-y, je vais te multiplier, Virbiticha, Vonataticha, les Kalamim, je vais te nommer, je vais te donner. Une communauté des nations. C'est-à-dire, c'est Commonwealth, c'est les États-Unis. Kahal Amim. Amim, c'est des peuples, des différentes tribus. Kahal, une communauté de peuples. C'est-à-dire, il y aura différents peuples et tout ensemble fera une communauté, fera un ensemble. Venatat, et je mettrai. Je te donnerai ta aret, ses autres, ses terres, les ararat, ta descendance, acharecha, après toi. Achuzat olam éternel. Vata, et maintenant, Shnei Banecha, tes deux enfants, Hanoladim Lacha, qui sont nés pour toi, Be'eretz Mitzrayim, dans les pays de Mitzrayim, ça c'est Yaakov personnel. Avant, il a dit ce qu'Hachem lui a dit. Maintenant, il raconte lui personnellement. Tes deux enfants qui sont nés, Be'eretz Mitzrayim, dans les pays de Mitzrayim, Adboa Elecha, avant que je sois venu chez toi, Lihem, ils m'appartiennent à moi. Ephraim ou Menaché, Korobem, Shimon, Lioli. Donc, je vais rehausser le statut d'Ephraim. Et de Menaché, comme Rouve et Shimon, ils font partie de mes enfants. Mais ceux qui sont nés après, tes enfants qui sont nés après, le Chayou, ça c'est à toi, ça c'est pas à moi, ça c'est à toi. Al-Shem Achehem Yikaru Benachalatam, au nom de leurs frères, ils vont être appelés pour leur héritage. C'est-à-dire quoi? Yosef, il avait peut-être 10 enfants après. Mais il y a deux tribus, les autres, ils doivent s'annexer ou à un ou à l'autre. Mais les deux sont des personnages supérieurs, Menaché Ephraim. Et pourquoi seulement ceux qui sont nés avant que Yaakov arrive? Pourquoi ceux qui sont nés après que Yaakov arrive? C'est des personnages moins importants. Et ceux qui sont nés avant que j'arrive, ce sont des personnes plus importantes. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés chez toi avant que j'arrive. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Les deux enfants que Dieu t'a donnés avant que j'arrive, ces enfants sont spéciaux. Tu les as eus quand tu étais seul. Les autres, tu as eus quand tout le monde est là. Alors, c'est des enfants, quand tout le monde est là, ils font partie de Monsieur Tout-le-Monde. Ce sont des gens, tout le monde, ils vont au cheder avec tout le monde. Ils vont à l'école avec tout le monde. Ils ont eu l'éducation comme tout le monde, ils vont à tout le monde, mais ils ne sont pas spéciaux. Mais tes enfants, avant que tu sois arrivé, tu étais seul. Tu as fait une école juive personnellement pour tes enfants. Tu as éduqué tes enfants seuls quand tu étais dans un monde impur. C'est spécial. Eux, ils ont vécu comme juifs tout seuls dans un pays impur. Grâce à ça, ils ont des caractères, qualités supérieures. Parce que quand on est seul, on est obligé de se dominer. Et quand on fait partie d'une communauté, on est faible. Parce qu'on s'appuie sur la communauté. Mais les autres, ils font, alors on est comme tout le monde. C'est comme ça la truc. Les gens qui sont seuls, ils réussissent beaucoup plus que les gens qui sont avec les autres. Sur beaucoup de choses. Vous connaissez ce truc-là qu'ils ont fait une fois? Ils ont fait dans une usine en Amérique. Ils ont fait un test. Il y avait en vendre un immeuble où il y en a 10 étages, il y en a 100 bureaux. Il y en a un dans le parking qui se met à crier. Un crise cardiaque, un truc, enfin, un crise cardiaque. Alors tout le monde court vers la fenêtre. Ah, alors tout le monde me fait sortir la tête. Ah, il faut tout de suite. Alors il y en a qui sont venus tout de suite pour aider. Alors, il y avait 100 personnes à la fenêtre. Alors, ils sont partis. 3, 4. Alors, ils ont fait un deuxième test. Quelqu'un est dans le même immeuble. Il y en a quelqu'un dans l'immeuble qui téléphone à l'autre. Et au milieu du téléphone, il fait une crise cardiaque. C'est-à-dire, un, il entend comme l'autre, au bout du fil, il fait une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui. Alors, où il courait plus des gens? Dans la première histoire ou dans la deuxième histoire? Hein? Pourquoi?
Il n'y en a que un, donc c'est 100%.
C'est-à-dire, il a fait ça avec tous les sons. Il y en a un qui téléphone à lui, à lui, à lui, à lui, un après l'autre. À chaque fois, il fait le même cinéma. Alors, dans le deuxième, combien ils se sont déplacés? Tous les 100. Dans le premier, il y en a 3-4. Pourquoi? Parce que quand je sors la tête, je vois qu'il y en a plein de têtes. Alors, c'est bon, je peux rentrer ma tête. S'il y en a 100 qu'ils ont vu, ça va, il y en a bien. Alors, il y avait une fois une histoire, il n'y a personne qui est venu aider. Ah, tout le monde, il sort la tête. Donc, quoi? Il y a 100 personnes qui sont au courant, qu'est-ce que j'ai besoin? Ça va? Ils vont se débrouiller. Ça y est, je suis pas tour. Mais si je suis le seul à entendre ça, alors que l'autre, il fait crise cardiaque, il téléphone à moi. Donc, on attend de moi. Donc, quand on est seul, on prend de responsabilité. Ça, c'est une expression de la Gemara. Kidre de Veishut Felochami Velochirire. La marmite des associés, il n'est ni chaud ni froid. C'est-à-dire, tu as une marmite qui est froide. Tu mets sur le feu. Il devient un peu plus chaud. Mais pour qu'il devienne vraiment chaud, il faut ajouter du gaz, du bois. Mais si ça appartient à des associés, c'est jamais chaud. Parce que chacun met un peu. Il met un peu, ça y est, bon, que les autres y continuent. Et chacun appuie sur l'autre. Dans une communauté, tu peux avoir 200 personnes, mais il n'y a jamais quelqu'un qui veut faire quelque chose. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi moi? Mais lui aussi fait rien. Pourquoi moi je ferai? Mais quand je suis seul, je ferai tout. La communauté, ça peut aider et la communauté peut être un frein. Ça rend les gens paresseux. C'est un grand problème. Quoi? Quoi? C'est lui qui met les oranges?
Non, je disais pas, il y a le cas contraire. Une communauté où un type veut tout faire.
Oui. Alors lui, c'est ton bop, il se démène, c'est vrai. Ça, c'est bon, Hachem. Ah, lui, il n'est pas paresseux. Alors, là, il y a un mérite, c'est vrai. Alors, Vani. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Les enfants qui sont nés avant que je suis venu, eux, c'est des grands personnes. Alors, je les prends pour moi. Vani et moi, Bevoimi Padan, quand je suis arrivé de Padan, Padan, ça va, quel mot il y a dans le mot Padan? Padan Aram, c'est quoi Padan? Padan, c'est quoi? Podé, podé, c'est racheter. Dan, c'est quoi? Jugement. Padan, racheter, jugement. Alors, Meta alai Rachel, elle est morte sur moi, Rachel. Be'eretz Kenaan, dans le pays de Canaan, Bader, sur la route, elle est morte sur la route. Be'ot Kivrat Eretz, la voie Ephrata, quand il y avait encore un bout de chemin, pour arriver à Ephrat. C'est quoi Ephrat? Hein? Il y a un fleuve qui s'appelle Frat. Ephrata. Hein? Ephrat, c'est un territoire qui s'appelle Ephrata. Va ekbare Hacham. Et je l'ai enterré là-bas. Bederech Ephrat. La route de Ephrat, hi Beit Lachem. Je l'ai enterré là-bas. Pourquoi il raconte ça? Pourquoi il raconte la mort de sa mère? Yosef, il voulait entendre qu'est-ce qui se passait quand sa mère est morte. Jamais Yaakov lui expliquait. Parce que Yaakov, Yosef, il s'est dit, pourquoi ma mère n'est pas enterrée? Marata Marpila. Bon, peut-être, c'est pas important. Mais maintenant, Yaakov, il a dit que quoi? Je veux que tu m'enterres dans Marpila, à côté de Léa. Maintenant, Yosef, il se dit, Yaakov va être enterré, et Léa aussi, et ma mère, non. Ah, pourquoi ma mère, non? Alors, Yaakov, il dit, parce qu'elle est morte sur la route d'Ephrat. Et alors, en quoi ça justifie? Alors, eh bien, la question, elle est, pourquoi tu ne m'as pas amené Marat à Marpela? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce que Rashi raconte? Que Yaakov, il a fait tout un discours. Que les Juifs, quand il y avait la destruction du premier Beth Amikdash, Nebuchadnezzar les a amenés en Babylonie. Et quand les a amenés en Babylonie, il les a conduits d'abord à Bethléchem et après ils sont partis en Babylonie. Et quand les Juifs ils sont arrivés à Bethléchem, ils ont dit, mais ici Rachel est enterrée, on va prier sur la tombe de Rachel. Donc les Juifs ils ont demandé à Rachel, prie pour nous pour la Goula. Rachel a prié, comme ça la Goula est venue. Donc Yaakov il a dit, je ne pouvais pas l'amener Marat HaMarpela, parce que les Juifs ne sont pas passés par Marat HaMarpela. Ils sont passés à Bethléchem, donc c'est mieux qu'on enterre ici. Donc ça c'est Yaakov, il a dit, mais où c'est marqué dans le texte ce que Rachi raconte? Hein? Rashi cite la Gemara. La Gemara n'invente pas une histoire qui n'est pas marquée dans le texte. Chaque chose qu'il raconte, c'est Mroumaz. Comment? Parce que c'est marqué, Va'ekberé Hacham, je l'ai enterré là-bas, Bederech Ephrat, parce que c'est la route vers le Prat. Prat, c'est quel fleuve? C'est l'Euphrate. L'Euphrate, là, à l'Euphrate commence la Babylonie. C'est-à-dire, je l'ai enterré là-bas parce que les Juifs, ils vont partir, quand ils vont partir, Bederech Ephrat, la route vers le Prat, alors ils vont passer ici, Beth Lachem. C'est comme ça, c'est marqué dans ce pasuk. Vayar Israël, donc il a calmé la Tana de Yosef. Donc ça veut dire que mon père, il n'a pas laissé ma mère ici parce qu'elle est moins importante. Peut-être mon père, il considère que ma mère n'est pas très importante. Bah, elle est morte, on l'enterre sur la route, qu'est-ce qu'ils s'en fout? Quoi, m'amener Marat à Marpila, l'endroit où tous les Juifs, ils prient. Ta mère n'est pas si importante. Il dit, ta mère, elle est très importante. Mais c'est, je l'ai enterrée ici parce qu'elle peut prier pour la Goula. Donc, mon père considère que ma mère est importante. Donc, ça, il voulait lui dévoiler ici à la fin de sa vie. Et pourquoi il n'en a pas fait jusqu'à maintenant? Il était 17 ans en Égypte. Il ne pouvait pas lui raconter ça pendant les 17 ans. C'est mieux de le dire avant de mourir. Ça fait mieux. Avant de mourir, ça fait mieux.
Peut-être que Rachel voulait être enterrée au caveau des martyrs de la Vierge. On ne sait pas si elle a jamais dit qu'elle ne voulait pas. Enfin, pourquoi finalement, après, une fois qu'ils ont prié, ils ne l'ont pas ramenée auprès de son mari?
Après que les Juifs y sont passés, tu veux la déterrer? Mais ils étaient attachés les mains et les pieds. Pas les pieds, on a attaché les mains. Ils étaient enchaînés, les Juifs. Quand Nebuchadnezzar a porté les Juifs, il a mis une chaîne. Ils étaient enchaînés, ils les ont amenés là-bas. Le seul qui n'a pas mis la chaîne dessus, c'est qui? Le prophète Yirmiya. C'est le seul qui a dit, vous ne l'enchaînez pas, ce monsieur. parce que lui, il a demandé au roi juif de me payer les impôts. Et le roi n'a pas écouté, mais lui, il a dit, il faut lui payer des impôts. Donc le vieux là, vous le faites, qu'est-ce qu'il a fait à mon avis? Il a pris la chaîne des juifs, il l'a mis sur lui. Il a dit, il souffre tellement avec la chaîne, il a pris sur lui aussi, il les a portés. Pour faire faciliter, il a dit, non, je veux pas de traitement de faveur. Il a porté aussi, il est parti. Après, Nebuchadnezzar, il a dit, tu n'es pas obligé de venir en Babylonie. Tu peux retourner à la maison. Alors, il est parti en Égypte. Parce qu'il y a une communauté juive. Parce qu'à Babel, il y avait beaucoup de chachamim. Déjà, en Égypte, il n'y avait personne. Donc, il est parti à Mitzrayim pour influencer les gens de Mitzrayim. Alors, Vayar, Israël et Bnei Yosef. Israël, il a vu les enfants de Yosef. Yomer, il a dit, Mi Eile, qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens? C'est-à-dire quoi, qui sont ces gens? Il connaissait Menaché Ephraim. Il a parlé avant de Menaché Ephraim. C'est-à-dire quoi, Mi Eile? Ça veut dire dans un sens, Mi Eile, l'origine. L'origine, c'est-à-dire tu te maries avec une femme pour avoir Ephraim Menaché. Comment ça fonctionnait ce mariage? Je veux savoir comment était fait le mariage. Vayomer, il a dit, Yom Yosef et la vive Banaïm, ce sont mes enfants, Fasher Nathan, Li Elohim, que Dieu m'a donné basé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire basé? Avec ceci, avec quoi? C'est quoi le basé? C'est, on montre quelque chose. Il a montré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a montré? Alors, Rachid dit, le papier de mariage, il a montré. Alors, quelle était la question? Est-ce que tu te mariais ou quoi? C'est ta petite copine. Quelle est la question? Est-ce que c'est sa petite copine ou est-ce que c'est un vrai mariage? Pourquoi il soupçonnait Yosef de ne pas faire un mariage? Mais quoi? C'était Dina. Il s'est marié avec sa nièce. Quoi? C'est Shimon qui se marie avec Dina. Lui s'est marié avec Osnat. Avec sa nièce, oui, avec sa nièce. Avec Osnat, il s'est marié. Et quelle était la Sheila de Yaakov? Est-ce que c'était un mariage ou c'était pas un mariage? Et pourquoi ce sera pas un mariage? Pourquoi Yaakov il avait une doute s'il se mariait? Parce qu'en Égypte, on n'avait pas la coutume de se marier. Quoi, peut-être là-bas, on se mariait pas. Tout était copain-copine là-bas. C'était pas des engagements. C'est marqué quelqu'un qui. J'ai mis dans ma sérette. Rachidi Shtar Erosin, le papier de Erosin, Shtar Ketuba. C'est quoi Shtar Ketuba? L'engagement que s'il divorce, il doit payer une grande somme d'argent. Ketuba, c'est une somme d'argent qu'il faut payer quand on divorce. Et si une femme n'a pas le Shtar Ketuba, il n'a pas le droit de vivre avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il peut facilement divorcer. La Mishnah dit dans Ketubot. Ce qui est avec sa femme, elle n'a pas de papier, Shtar Ketuba. C'est comme il fait des genoux, comme hors mariage, malgré qu'il est marié. Pourquoi? Parce que quand un homme, il est énervé et il veut divorcer sa femme, il va divorcer. Mais s'il sait que ça coûte 200 000 dollars, il va dire, attendez. C'est pas parce qu'elle me brûlait le pomme de terre, je vais divorcer, ça va me coûter 200 000 euros. Je vais réfléchir une deuxième fois. Donc, le fait qu'elle a la Ketuba, ça lui donne une sécurité qu'il ne va pas facilement divorcer. Donc, s'il n'y a pas de Shtar Ketuba, c'est-à-dire un homme qui peut facilement divorcer, c'est un mariage, c'est pas costaud. Mais c'est comme du znout. C'est comme un homme qui vit avec une femme sans engagement. Vivre sans engagement, ça c'est du znout. Les gens qui disent, je veux me vivre avec cette fille, mais je ne me marie pas. Pourquoi? Je ne veux pas de responsabilité. Si c'est ton parent, je me sépare. Et les enfants, un peu, c'est pas grave, un peu les enfants. C'est-à-dire, on met des enfants au monde, mais je ne m'engage pas de rester avec ta mère. Ça, c'est grave, ça, c'est znout, ça donne c'est des enfants c'est pas bien. Mettre des enfants au monde sans mariage, va-t-il? Voyons, Yosef est la vif. Yosef, il dit, donc il a dit, voici les enfants que Dieu m'a donné basés. Oui, il y a un kishtar que tout va, je me suis engagé vis-à-vis d'elle. Voyomar, il est dit, Kachemnala, et tu le prends vers moi, va avoir Rachem, et je vais les bénir. Là, c'est-à-dire, sinon, je n'aurais pas béni. Si tu as marié, si tu as eu des enfants hors mariage, je n'aurais pas donné ma bénédiction. Veine Israël, kav de mizoken. Et les yeux d'Israël sont devenus lourds de zoken, de vieillesse. Ça veut dire quoi, les yeux sont lourds? C'est les paupières qui sont lourdes, pas les yeux. Hein? Ah, il voit quoi? Il avait un cataracte? Ah, c'est pas les paupières, mais les yeux, vraiment. Lo yuchal lirot, il ne pouvait plus voir. Il avait un cataracte. Ah, il avait un cataracte, Yaakov. Ou est-ce que les paupières, il s'est fermé parce que c'était lourd, il était fatigué? Il ne pouvait plus tenir les yeux ouverts, je ne sais pas comment. Alors, Vayagesh otamelaf, il les a rapprochés. Vayishaklem, il les a embrassés. Vayechabeklahem, il les a enlacés. Ça représente quoi? Quand le tzaddik, ils mettent la main autour d'eux, ils les embrassent et c'est le début de la bénédiction. Sentir quoi? Sentir la proximité du corps de Yaakov. Lui, il a 147 ans. Eux, ils ont quel âge? Quel âge ils ont? Quel âge ils ont? Il avait 30 ans quand il était devant Paro. Et quand il avait 39, son père, il est venu. Donc, ils avaient maximum 8 ans. 8 ans et 7 ans, à peu près. 8 ans et 7 ans. Beterem tavo shnat. C'est pendant les 7 années. Ils sont nés. Après 2 années, il est venu. Non, mais t'as encore 17 ans. Attends, il y avait encore 17 ans qu'ils ont vécu. 17 ans. Et ils avaient encore 7 ans à peu près avant. Donc, ils avaient 24 ans. 24 ans, 23 ans, comme ça, Ephraim et Menaché. Et le fait qu'ils mettent la main sur eux, ils les enlacent. C'est quoi la proximité corporelle avec Yaakov, ça fait un effet. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là? C'est-à-dire quoi, le bras de Yaakov, c'est la Kedusha qui était dans son bras, la Torah, la Kedusha, l'Emouna. C'est-à-dire, c'est son corps était bourré d'Emouna. Ils mettent le bras dessus, ils l'embrassent. Comme une smicha, on met la main sur quelqu'un, on lui transmet quelque chose. Il leur a transmis son kouach. Vayomer Israël et Yosef. Il y a Israël et Yosef. Ro'o fanecha lo filalti. Voir ta face, je n'ai même pas rêvé. Je n'ai même pas espéré. Vihine vasi hera oti Elokim. Dieu m'a montré. Gam et zarecha même tes enfants. Dieu m'a montré. Comment Dieu m'a montré? Il ne voyait pas. Ça veut dire quoi? Mais il ne pouvait pas voir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir, alors comment il peut dire Dieu m'a montré? Pas aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques années avant, quand je pouvais encore voir, il m'a montré. Ou Dieu m'a montré, ou il a vu dans un film, même qu'il n'a pas vu avec ses yeux, mais Hachem lui a montré ses enfants. Vayotse Yosef otam imbirkaf. Yosef les a sortis, mais imbirkaf de ses genoux. Donc avant, ils étaient dans le genou, autour du genou de Yosef. Entre les genoux de Yosef. Maintenant, il les a sortis. Vaishtachu le apav arza. Ils se sont prosternés le apav devant sa face. Arza. Qui? Les deux enfants, ils se sont prosternés devant la face de qui? Non. Yosef irachiti vaishtachu le apav que shechazar la achorav milifne aviv. Yosef se prosternait, pas les enfants. Vaishtachu Yosef, après qu'il a donné les enfants au père, Yosef il a reculé et il se prosternait devant le père. Pourquoi il s'est prosterné devant le père? Il a transmis ses enfants à Yaakov et il se prosterne devant Yaakov. Pourquoi? Pour remerciement. Pour remercier que Yaakov, il a pris les deux enfants. Le fait que Yaakov les a pris chez lui, Yosef lui remercie. Voyez que Yosef est Shnehem. Donc maintenant, Yosef, il prend les deux. et d'Ephraïm bimino. Ephraïm à sa droite, Misemol Israël, côté gauche de Yaakov. Et Menaché bismolo, Menaché à sa gauche, Mimin Israël. Vayag et Shelaf, il les a rapprochés. Vayishlach Israël est Yemino. Et Israël, il a envoyé sa main droite. Vayachet, il a posé Al-Rosh Ephraïm, sur la tête d'Ephraïm. Vehu Hatzaïr, et lui, c'est le jeune. Vetsemolo, et sa main gauche. Al-Rosh Menaché, sur la tête de Menaché. Sikel et Yadaf, il a croisé ses mains. Ou Sikel et Yadaf, il a. Sikel, mais la chance Sechel. Sechel, intelligence. Il a donné de l'intelligence à ses mains. Qui Menaché à Bechor, car Menaché était le Bechor. Il a croisé. Alors, ça veut dire quoi la main droite? La main droite, c'est plus fort que la main gauche. Donc, la bracha la plus forte, il a donné à Ephraïm. Et la moins forte à Menaché. Il a favorisé les deuxièmes et pas le premier. Vaivarech et Yosef, il a béni Yosef. Vayomar, il a dit, Ha Elohim, Dieu, Asher ithalchu avotai lefanaf, que mes parents marchaient devant lui. Qui c'est mes parents avant Mitzrak? Elohim, le Dieu, Haroué Oti, qui m'a gardé, qui m'a protégé, qui m'a conduit, mais Odi, depuis que j'existe, depuis ma tendre jeunesse, Adayom Azé, jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours gardé, c'est-à-dire Roé, Haroé, Oti, c'est comme un berger. J'étais un mouton et lui, c'est mon berger. Il prend l'image du berger. Dieu était mon berger et moi, j'étais son mouton. Il m'a bergeré. Il m'a,
éduqué.
Comment on dit un berger, il fait paître. Le berger qui m'a fait paître depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, Jacob il se sentit comme un mouton avec un berger. Qu'est-ce qui fait le berger au mouton? Il est conduit sur les Alpes. Il est conduit là où il y a quoi boire. Quand le lion il vient, il intervient. Quand il se casse les pieds, alors le berger il vient mettre un pansement. Il m'a tendu la laine. En hiver, il m'a donné à manger. Il s'occupe. Le berger, il s'occupe, il protège, il entoure, il se... Alors, c'est ça qu'Hachem, il m'a fait toute ma vie. Donc, ce Dieu-là, alors, qu'est-ce qu'il y a avec ce Dieu? Hamalach ha-goel oti mikolra, l'ange. C'est quoi l'ange? L'ange de Dieu. Bon, c'est une façon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais la présence de Dieu. Hamalach ha-goel oti, qui m'a toujours délivré. Mikolra de tout mal. Il m'a délivré de tout mal. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, il avait beaucoup de mal, beaucoup de rechaïm qui voulaient le massacrer. Dieu, il m'a toujours délivré, Yavarech et Enarim, que ce Dieu qui, moi, il m'a tiré de tous les mauvais pas, et bien ce Dieu, Yavarech et Enarim, qui bénit les enfants, que quoi, de aussi les protéger, qu'il m'a toujours protégé à moi. Veikare Bahem Shemi, et qu'il soit sera appelé Bahem en eux, Shemi mon nom. Mon nom sera appelé en eux. C'est-à-dire qu'on verra sur Ephraïm et Menaché que c'est les enfants de Yaakov. C'est-à-dire que je voudrais que ces enfants ils peuvent porter mon nom, qu'ils méritent vraiment leur comportement. Il sera méritant de s'appeler mon nom. Veshem Evotai, le nom de mes parents, Avraham Yitzhak. Que les gens ils disent, voilà, Ephraïm et Menaché, ils sont les dignes héritiers de la dynastie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vyidgularov Kervar, c'est qu'il se multiplie largement au milieu de la terre. Voyons, Yosef, il a vu qu'il y a Shit Aviv, que le père, il a posé Yatimino, sa main droite, Al-Rosh Ephraim sur la tête d'Ephraim. Vayeira Be'einav, c'était mal à ses yeux. Vayit Mochia Daviv, il a soulevé. Il a soutenu la main de son père, Domba, Yitmoch, et David, la sirota pour la enlever, mais Al-Rosh Ephraim, dans la tête d'Ephraim, Al-Rosh Menaché. Voyons, mais Yosef, il a vif, Yosef, il a dit à vif, c'est-à-dire, il ne réussissait pas. Il essayait, donc Yaakov, il avait beaucoup de force, malgré qu'il était archi-madat. Il a appuyé la main, et Yosef, jeune homme, il essayait de lever, ça ne marche pas, c'est du béton, ça ne marche pas. Vayomer Yosef el Aviv, alors Yosef il dit à Aviv, l'Oken Aviv, non, c'est pas comme ça, papa. Kizea Bechor, ça c'est le Bechor, Sim Yad Mincha al Rosho. Mets ta main droite sur sa tête. Vaïma en Aviv, et le père, il a refusé. Vaïomer, il a dit, Yadati beni Yadati, je sais mon fils, je sais. Je sais, c'est-à-dire quoi, je sais mon fils, je sais beaucoup de choses. Et je sais, quand on répète je sais, ça veut dire beaucoup plus que toi. Beaucoup plus t'imagines, c'est pas une petite folie qui passe dans ma tête, je sais un petit truc. Je connais profondément ce qui se passe ici. Yadati, beni yadati, je le sais. C'est-à-dire, je suis convaincu jusqu'au bout de ce que je te dis. Yadati, beni yadati, gam hu yelam. Lui aussi sera un peuple. Qui c'est lui, Menaché? Gam hu yigdal, lui aussi grandira, je sais. V'oulam seulement. Achiva katon, son petit frère, yigdal mimenu, sera plus grand. Mais sa descendance remplira l'honneur parmi toutes les nations. C'est-à-dire quoi? Qui c'est sa descendance? La descendance d'Ephraïm, c'est qui? Qui était le chef de la tribu d'Ephraïm? Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun venait d'Ephraïm. Et lui, il a fait arrêter le soleil. C'est lui qui a gagné la guerre contre les 31 rois. Il a fait arrêter le soleil. Et toutes les nations ont vu que Dieu, il donne Eretz Israël aux Juifs, que Dieu il est d'accord avec le peuple juif. Le soleil s'est arrêté tant qu'ils n'ont pas fini la guerre, ou 24 heures, ou 36 heures, ou 48 heures. Donc toutes les nations y prendront connaissance de la grandeur de Yeshua ben Nun. Donc ça veut dire quoi? Lui, il est plus grand. Et mais Ephraïm était quoi? Ephraïm, c'était ceux qui étudiaient chez Yaakov. Et Menaché, c'était le roi. Menaché, il a appris la gouvernance de la royauté. Et ça, c'est la grande question. Qui est supérieur? Le chef politique tzaddik ou le chacham? Qui est plus... Qui a la première bracha? Alors, c'est ça que Yaakov Avinu, il a décidé ici. Il a décidé, ça, c'était un grand moment. Vaivarechem. Il les a bénis. Bayom haou, ce jour. Il les a bénis ce jour. Les morts, en disant. Becha yevarech Israël. Becha, c'est quoi Becha? Avec toi, qui c'est toi? Qui c'est toi? Toi, c'est Yosef. Il a béni les enfants, il a dit Becha avec toi, c'est-à-dire avec toi, Yosef, yevarech Israël, le juif, c'est-à-dire le juif qui bénit son fils, il va bénir son fils avec la bracha de Yosef. Les morts en disant, Yesimcha Elukim Kefraim Vechimenaché. Que Dieu, il te mette comme Ephraïm et Menaché. C'est-à-dire la formule magique d'une bracha, on souhaite, un juif qui souhaite à un autre juif que tu as un bon fils, un bon, comme qui? Comme Ephraïm et comme Menaché. Voyez, c'est mettre Ephraïm et Menaché. Il mettait Ephraïm avant Menaché. C'est-à-dire quoi? Mais si un juif, il bénit son fils, il a un fils, il n'a pas deux fils. Tu peux dire, si quelqu'un a deux enfants, un père qui bénit ses deux enfants, il bénit comme Ephraïm et Menaché. Et mettre Ephraïm et Menaché. Mais si on n'a qu'un fils, comment tu peux le bénir comme les deux? Tu peux jouer les deux rôles. Quand tu bénis un juif, bénis-le avec la force d'Ephraïm et de Menaché. Ephraïm avant Menaché. C'est-à-dire, je te bénis que tu seras chacham et que tu seras le roi. On peut aussi bénir que tu seras roi et que tu seras chacham. La question, qu'est-ce qui est le plus important dans l'éducation? Un homme qui peut arriver à la royauté. Un homme qui peut arriver à la Torah. Un homme qui peut arriver aux deux choses, aux deux places. Il a la tête pour les deux. Alors, où il faut plus s'investir? Il dit mettre Ephraïm avant Menaché. Ça, c'est la bracha qu'un juif y bénit. Et pourquoi pas comme Rouven et Shimon, et comme Dan et Naphtali, et comme Binyamin et Yehuda, bénir comme Menaché Ephraïm? Parce que c'est bracha, c'est toi, Yosef. Parce que les enfants de Yosef. Donc, la bracha, c'est avec Yosef. Il transmet quelque chose ici à Yosef spécial. Yosef, il reçoit quelque chose de spécial ici, une faveur spéciale. parce que ce sont tes enfants. Parce que toi, tu es le chef. Parce que toi, tu es le fils de Rachel. Je te donne quelque chose de plus que les autres frères. Tu as le double héritage. Tu es le Bechor. Le Bechor, il reçoit le double. Normalement, le Rouven, c'est le Bechor. Non. C'est pas Rouven le Bechor. C'est toi le Bechor. Le projet divin, il reste toujours. Moi, je me suis marié avec Rachel. Et moi, je voulais avoir Rachel comme première femme et comme premier enfant de Rachel. Et voilà, Lavan, ton grand-père, là, Lavan, il essaie d'embrouiller les trucs. On va tout remettre en place. Je remets en place que toi, tu es le Bechor. Mais vis-à-vis de Menaché Ephraïm, il a inversé. D'un côté, il redonne à Yosef la Bechora, mais les enfants de Yosef, il a inversé. Et Menaché, c'est le Bechor. Et quand même, où ce sont deux enfants qui jouent un rôle ensemble, parce qu'ils s'entendent bien. Menaché et Ephraïm, ils s'entendaient bien. Menaché n'était pas fâché avec Ephraïm et les chefs, il n'était pas fâché. Parce que Yosef était tzaddik, parce que tout le monde détestait Yosef, et Yosef ne détestait pas ses frères. Parce que Yosef était, et il ne détestait pas Yosef. Donc les enfants aussi ne se détestaient
pas. C'est Racha aussi qui les a fait passer au statut de tribu aussi.
Donc oui.
Il y a une peut-être plus grande force de... Les autres, ils étaient déjà tribu, donc ils ont une bracha normale. Enfin, mais là, non seulement ils ont eu de la bracha pour la réussite dans chacun d'entre eux, mais en plus ils ont une bracha pour devenir, à partir de ce moment-là, une tribu.
Et aussi parce qu'ils sont comme un frère, c'est-à-dire c'est comme une personne, parce qu'ils sont tentés bien. Les enfants de Yosef, Menaché et Ephraïm, ils n'étaient pas jaloux l'un de l'autre. Ils se supportaient bien, ils s'entendaient bien, pas comme les autres frères. Donc, je peux me permettre. C'est plus fort, ou moins fort.
Mais c'est pas que c'est plus fort, c'est qu'il n'est pas obligé de respecter les règles depuis ses nés, de ses nés. Le grand-père, il fait ce qu'il veut. Il a envie de faire une bracha en premier au plus petit, c'est son droit. C'est pas le père.
Le grand-père, c'est spécial. Le grand-père achète plus des cadeaux. D'où on reçoit plus des cadeaux, du père ou du grand-père?
Du grand-père.
Hein? Le grand-père, il envoie plus des cadeaux.
Le petit est plus gâté.
Le père, il n'a qu'à faire. Le père, il frappe. Le grand-père, il apporte les taxis, les voiturettes. Et... Hein, toute la journée, il amène des cadeaux. Comment ça se fait?
Il n'y a rien à voir. Hein.
C'est pas la même responsabilité.
Rien à voir plus que le grand-père.
Oui.
Si le père il n'est pas là, il a l'obligation, peut-être pas le mot obligation, mais il a le devoir de circoncire le petit-fils.
Ah oui, évidemment.
Alors, ça tient un rôle quand même du grand-père, ouais. Pour parler du grand-père.
Oui.
Hein?
Oui, parce que circoncire, il doit aller étudier la Torah aussi, le truc, bien sûr. Alors, bon.
Thank you.